Bon, bah, du coup, on va débuter ce forum sur quelle politique pour les travailleurs face aux licenciements et aux fermetures d'usines. Et du coup, je passe la parole à Jean-Pierre Mercier.
...550 plans de licenciement, près de 300 000 travailleurs concernés. C'est le bilan provisoire que fait la CGT au niveau national, tout secteur d'activité confondu. Le secteur automobile, qui emploie plusieurs centaines de milliers de travailleurs, est sans doute un des secteurs le plus touchés par les vagues de licenciements et les fermetures d'usines. Alors avant de parler des causes réelles de tous ces licenciements, puis de développer la politique que nous, militants de lutte ouvrière, défendons dans les usines, il est important, je crois, pour ne pas discuter dans le vide, de faire un constat de la situation. Oui, le patronat amplifie ses attaques et elles continueront tant que le monde du travail ne retrouvera pas confiance dans sa force collective et ne retrouvera pas le chemin des luttes. Nous savons qu'aucun gouvernement, qu'aucune assemblée nationale, qu'aucune loi ne pourront protéger les travailleurs des attaques du patronat. Tous les gouvernements, et à commencer par les gouvernements de gauche, ont systématiquement choisi leur camp, celui du patronat, des actionnaires, car dans cette société capitaliste, le pouvoir réel se trouve dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Les politiciens peuvent avoir un langage radical quand ils sont dans l'opposition, et encore on le voit de moins en moins, mais dès qu'ils accèdent au pouvoir, ils servent la soupe au grand patronat et défendent les intérêts de la bourgeoisie. Cela a été le cas avec Mitterrand, Jospin, Hollande, et cela le sera avec Mélenchon. Pour s'opposer au licenciement, les travailleurs n'ont pas d'autre choix que de reprendre conscience que ce qui leur donne la force, la capacité de défendre leurs intérêts, c'est que non seulement ils représentent l'écrasante majorité de la société, mais qu'ils occupent la place centrale dans l'économie par le fait qu'ils produisent tout. En effet, les travailleurs sont à la base du fonctionnement de toute la société, à la base de la création de la moindre richesse. Sans eux, absolument rien ne peut être produit, vendu, recyclé. C'est vrai dans l'industrie automobile comme dans tous les secteurs de l'économie. Ce qui leur manque, c'est justement cette conscience. C'est la conscience d'appartenir à une classe sociale sur laquelle l'ensemble de la société repose. Une classe non seulement incontournable, mais qui porte en elle, collectivement, la solution pour s'opposer à la bourgeoisie, changer cette société pourrie, et la conscience qui en est inséparable, que ses intérêts sont irrémédiablement opposés à ceux des capitalistes, qu'il ne peut pas et qu'il ne pourra jamais y avoir d'intérêt commun entre patrons et travailleurs. Nous sommes deux classes sociales ennemies. Je dis retrouver, car décennie après décennie, cette conscience politique a reculé. Alors je n'ai pas le temps de m'étendre sur les raisons de ce recul. Mais il y a de moins en moins de luttes, de grèves, y compris sectorielles. Les travailleurs discutent ou font de moins en moins de politique, et aujourd'hui, ce sont les idées réactionnaires qui gagnent du terrain parmi les nôtres. Voilà le constat, sans détour, réel, de l'état de conscience et de la combativité de la classe ouvrière aujourd'hui. C'est dans ce contexte que le patronat déroule ses attaques avec l'objectif de maintenir et d'augmenter ses profits. Car la seule raison des licenciements et des fermetures d'usines est bien celle-ci, la recherche perpétuelle des profits. Les politiciens, qu'ils soient de gauche, de droite ou d'extrême droite, cherchent à masquer cette réalité derrière des mots ronflants tels que l'intérêt national ou la fameuse compétitivité. Selon eux, les usines françaises ne seraient pas assez compétitives, ce qui nuirait aux intérêts français. En réalité, ils cherchent à cacher que ce qu'ils appellent l'intérêt national, ce sont les intérêts des capitalistes français, et que la compétitivité, c'est uniquement une question de profit, puisque c'est la capacité des patrons à payer des travailleurs le moins possible pour qu'ils produisent le plus possible. Mais en racontant ces balivernes sur l'intérêt national et le patriotisme économique, les patrons, les politiciens bourgeois et les experts à leur service ont un objectif. Convaincre les travailleurs que leur problème, c'est la concurrence des travailleurs des autres pays, pour leur faire détourner le regard de leurs vrais ennemis, des vrais responsables de l'exploitation et du chômage, les capitalistes. Cette rengaine sur la concurrence des travailleurs étrangers, tous les politiciens bourgeois, et là sans exception les camarades, l'ont entonné à un moment ou à un autre, le dernier en date étant François Ruffin. À une époque, l'ennemi était le travailleur japonais, puis celui d'Europe de l'Est, les Slovaques, les Tchèques, ou le fameux plombier polonais. Aujourd'hui, c'est aux Chinois qu'ils s'en prennent. Ces fameux Chinois qui se préparent à inonder le marché français de leurs voitures et à ruiner les industriels français. Mais quelle hypocrisie! D'une main, un groupe comme Stellantis explique qu'il ferme des usines du fait de la concurrence chinoise. Et de l'autre, le même groupe conclut une alliance avec Leap Motor, un constructeur chinois, pour importer ses voitures en Europe. Et il ouvre, récemment vous avez dû en entendre parler, il ouvre ses usines de Rennes, de Saragosse et de Madrid à ses alliés chinois, Dongfeng et Leap Motor, pour que ceux-ci y fabriquent directement des voitures. Et là, il n'y a pas de concurrence chinoise qui tienne. Car la seule chose qui importe aux actionnaires de Stellantis, les familles Peugeot et Agnelli, c'est combien de milliards ils vont ramasser à la fin dans de telles opérations. Alors les patrons savent et ont toujours su faire des profits en se moquant des frontières. Alors pas question que nous, les travailleurs, nous nous fassions avoir dans leur baratin sur la concurrence étrangère. La seule concurrence qui existe réellement, elle n'est pas entre les travailleurs, mais entre les groupes capitalistes eux-mêmes. C'est une loi inhérente au système capitaliste lui-même, une loi qui n'a jamais été votée par aucun parlement, mais qui s'applique dans le monde entier. Les groupes capitalistes sont en guerre les uns contre les autres. Ils se livrent une bataille à mort pour gagner des parts de marché et faire mordre la poussière, écraser, avaler ou tuer leurs concurrents. Et dans cette guerre à mort, la victoire revient toujours à celui qui est le plus capable de produire moins cher que les autres, c'est-à-dire d'exploiter davantage ses ouvriers que les concurrents. C'est pour cette raison, et pour cette raison seulement, que les capitalistes suppriment des emplois par milliers pendant qu'ils aggravent les conditions d'exploitation pour les ouvriers qui restent. Pour baisser leurs coûts de production, afin de gagner des parts de marché à leurs concurrents. Comme l'expliquait clairement Carlos Tavares, l'ex-patron de Stellantis, je le cite, « Pour survivre, il faut aller manger dans la gamelle des autres. » Effectivement, les capitalistes n'ont pas d'autre solution. C'est inhérent à leur système. C'est dire que le capitalisme à visage humain qui essaie de continuer à vendre aux travailleurs les Ruffin, les Mélenchon et les Roussel n'est qu'un mensonge, un piège grotesque. Le vrai visage, le seul visage que peut avoir le capitalisme, c'est celui de la guerre économique, la guerre commerciale, la guerre de classe, la guerre tout court. Et cela ne changera pas tant que la classe ouvrière ne dirigera pas la société, c'est-à-dire tant qu'elle n'aura pas exproprié les capitalistes de leurs usines, de leur fortune personnelle et ne les aura pas mis hors d'état de nuire. Alors, quand je parle de retrouver une conscience politique, c'est d'abord et avant tout de cette conscience-là que je parle. C'est celle d'avoir conscience que tant que ce seront les lois du marché, de la concurrence et du profit qui géreront l'économie, les travailleurs seront réduits constamment à se battre contre les licenciements et les fermetures d'usines, c'est-à-dire à se battre pour leur droit à l'existence, pour leur droit à ne pas tomber dans la misère, pour leur droit à ne pas crever. C'est cette politique que défendait Léon Trotsky dans le programme de transition en 1938 et qui garde aujourd'hui toute son actualité face aux fermetures d'usines et aux licenciements et qui, à lutte ouvrière, nous sert de boussole. Je cite Léon Trotsky. Le droit au travail est le seul droit sérieux que l'ouvrier ait dans une société fondée sur l'exploitation. Cependant, ce droit ne cesse de lui être contesté. Fin de citation. Autrement dit, les capitalistes ont créé une société où la seule possibilité pour un travailleur de gagner son pain est d'aller s'embaucher chez un patron pour se faire exploiter. Mais à chaque instant, les capitalistes peuvent le priver de ce gagne-pain. C'est la raison profonde pour laquelle, fondamentalement, le capitalisme ne pourra jamais offrir aucune sécurité, même pas celle de survivre aux travailleurs, et pour laquelle il est nécessaire de le renverser. Oui, jusqu'à ce que la classe ouvrière prenne le pouvoir et s'empare des usines et des banques, ce seront les capitalistes qui seront propriétaires des moyens de production et les géreront uniquement en fonction de leurs intérêts. Les militants ouvriers qui cherchent une solution pour les travailleurs dans le cadre du capitalisme ne peuvent aller que de désillusion en déception et en trahison. Tant que ce sont les bourgeois qui dirigent la société, il n'y aura jamais de bonne solution pour les travailleurs. Jamais de répit. Ce sera une lutte continuelle, incessante, pour défendre leurs intérêts face à ceux irrémédiablement opposés des capitalistes. Sans cette conscience politique, camarades, les travailleurs et les militants ouvriers seront toujours en retard d'une bataille face à leurs exploiteurs. Alors cette bataille pour le droit à l'existence, le droit au travail dont parlait Trotsky, c'est-à-dire le droit à avoir un salaire pour vivre, cette lutte contre les licenciements et les fermetures d'usines, quelle forme prend-elle concrètement ? Pour nous, militants de lutte ouvrière, elle ne peut se mener qu'en raisonnant uniquement en fonction des intérêts de classe des travailleurs. Elle ne peut s'articuler qu'en fonction du rapport de force réel que les travailleurs ont la capacité d'imposer au patronat. Dans le cadre d'une mobilisation, j'insiste, parce que ça va venir dans le débat, j'en suis convaincu. Dans le cadre d'une mobilisation massive et générale de la classe ouvrière, face aux fermetures d'usines, oui, il serait possible de revendiquer et de chercher à imposer, à l'échelle d'un groupe industriel comme Stellantis, d'un secteur tout entier comme celui de l'automobile ou d'un pays, la répartition du travail entre tous sans baisse de salaire. C'est-à-dire, comme le défendait Léon Trotsky, l'échelle mobile des heures de travail. La répartition du travail est un objectif de lutte qui permet de combattre la division qui existe entre les travailleurs qui ont du travail et ceux qui en sont privés. Cette répartition du travail entre tous, c'est même au-delà des frontières qu'il faudrait l'imposer. Car le problème des fermetures d'usines et du chômage est le même dans tous les pays. Et pour nous, la classe ouvrière est une et indivisible à l'échelle de toute la planète. Lorsque des syndicats, ici, réclament la relocalisation en France de la production de tel ou tel modèle de voiture aujourd'hui fabriqué au Maroc ou en Slovaquie, ils ne font rien d'autre, au fond, que de réclamer des fermetures d'usines au Maroc ou en Slovaquie en espérant sauver des emplois ici, en France. Ce n'est pas seulement une utopie réactionnaire. C'est aussi la démonstration de leur nationalisme, leur défense des intérêts, dont je parlais tout à l'heure, français, en se moquant bien du sort des ouvriers d'autres pays qui seraient jetés, eux aussi, dans la misère si leur usine fermait. Eh bien nous refusons de raisonner de la sorte. Nous sommes internationalistes, dans la lignée du mouvement ouvrier du 19e siècle, qui a commencé par créer une internationale ouvrière pour tenter de faire tomber les œillères nationalistes des ouvriers, pour proclamer que les intérêts de la classe ouvrière sont les mêmes dans tous les pays, en lançant la célèbre devise « Prolétaires de tous les pays, unissons-nous ». Pour lutter contre les fermetures d'usines et les licenciements, il faudrait amener les travailleurs à contester ce principe patronal érigé en loi éternelle que c'est le travailleur qui doit payer par la perte de son emploi, la baisse de production ou l'augmentation de la productivité que le marché impose au patron de l'usine. Il serait légitime d'imposer l'interdiction des licenciements et de forcer les patrons à garder tous les travailleurs en imposant la répartition du travail entre tous sans baisse de salaire. Dans un cadre de mobilisation générale, ce serait vital de défendre auprès des travailleurs ces objectifs de lutte. Que les travailleurs tendent à interdire aux patrons de licencier et les obliger à embaucher serait un pas énorme vers la contestation de leur pouvoir sur leurs usines et sur l'économie. Cela leur ferait franchir un pas décisif dans la conscience qu'il faut contester à la bourgeoisie la direction de la société. Mais en dehors d'une telle mobilisation générale, de lutte massive, où la classe ouvrière est combative, déterminée et surtout consciente, les combats contre les fermetures d'usines et les licenciements se heurtent à d'immenses difficultés. À Poissy, dans l'usine où je travaille, comme dans 550 entreprises, c'est la difficile situation que nous vivons. Ces combats, tant qu'ils restent limités à une entreprise, ils se mènent dans le cadre d'un rapport de force défavorable pour les travailleurs sur un terrain et selon un calendrier choisi par les patrons de cette entreprise. Les travailleurs le savent, ils sont pas bêtes, ils sont pas fous. Et c'est ce qui peut les faire hésiter à s'engager dans ce combat. Malgré cette évidence, les confédérations syndicales et les partis de gauche comme le PCF ou LFI défendent des politiques totalement fausses, erronées, suicidaires pour les travailleurs. C'est pourquoi nous sommes en opposition totale avec ce qu'elles défendent. Ces politiques consistent à lever le drapeau de la défense de notre industrie française, à davantage se désoler de la perte des savoir-faire que des emplois, qui se lamentent sur la disparition de notre tissu industriel. Bref, à raisonner comme les meilleurs défenseurs de l'exploitation capitaliste telle qu'elle est et à faire croire qu'il y a une solution pour les travailleurs s'ils arrivent à convaincre les patrons de leur projet industriel. C'est le cas à l'usine Stellantis à Poissy, où des syndicats, CGT en tête, proposent aux travailleurs de se battre pour un projet industriel, en l'occurrence un petit véhicule pas cher, populaire. Alors, depuis que le patronat de l'automobile a levé le pied sur le véhicule électrique et que les preuves s'accumulent que le moteur électrique n'est pas forcément moins polluant que le thermique, la CGT a modifié son projet industriel. Ce n'est plus le tout électrique, mais aussi c'est le thermique et l'hybride. Alors pourquoi petit véhicule populaire pas cher ? Allez savoir. Les gars à l'usine expliquent naturellement qu'ils n'achètent pas des petits véhicules, mais des grands pour y caser toute la famille. Mais laissons la CGT dans ses contradictions. La réalité, c'est qu'ils n'y croient pas eux-mêmes et que les patrons n'ont que faire de leurs conseils et savent mieux que les syndicalistes comment et où faire du profit. Ironie de l'histoire, Stellantis vient juste d'annoncer la fabrication d'un petit véhicule électrique populaire, une nouvelle de chevaux, mais pas à Poissy, en Italie, à l'usine de Pomigliano et sûrement accompagné de suppression d'emplois. Mais le plus grave, c'est que proposer un projet industriel comme objectif de lutte, c'est se placer directement sur le terrain du patron. C'est tenter de faire la preuve que ce petit véhicule populaire à Poissy serait rentable pour le patron à fabriquer. C'est se transformer en conseiller patronal. C'est faire complètement abstraction que si le patron a décidé de fermer son usine de Poissy, de détruire cet appareil de production, de se débarrasser de milliers d'emplois, c'est que cela correspond à ses intérêts dans sa guerre commerciale qu'il mène à l'échelle mondiale contre ses concurrents. Son but, c'est de rentabiliser son appareil de production, de le rendre plus productif, plus compétitif, et de produire les voitures qui auraient dû sortir des chaînes de Poissy dans une autre usine, en surchargeant ses capacités de production, c'est-à-dire en intensifiant l'exploitation de ses travailleurs. Encore une fois, pour que les actionnaires de Stellantis reculent sur la fermeture de l'usine de Poissy, il faudrait d'abord que les travailleurs engagent le combat non seulement dans l'usine de Poissy, ça c'est la base, mais aussi sur l'ensemble du groupe Stellantis, voire sur l'ensemble du secteur automobile. Il faudrait que le patronat de l'automobile soit confronté à cette fameuse mobilisation générale. Et nous avons tous conscience ici que nous ne sommes pas encore là. Mais même dans ce cas-là, Ce serait une impasse que de proposer aux travailleurs d'aller sur le terrain du patron en lui conseillant de produire tel ou tel véhicule ou tel moteur ou boîte de vitesse en lui démontrant que c'est rentable, qu'avec cette production, oui, il peut faire du profit sur le dos des travailleurs qu'il ne s'inquiète pas. La réalité est qu'au lieu de faire le procès d'un système, ces dirigeants confédéraux et politiciens attachent les travailleurs aux intérêts de leur patron. Et ils démolissent ainsi la conscience d'appartenir à une classe dont les intérêts sont à l'opposé de ceux des capitalistes. Au contraire, dans ces combats, par définition défensifs, que les travailleurs n'ont pas choisi de mener, contrairement aux luttes pour les salaires, nous devons d'abord expliquer les causes réelles des fermetures d'usines et des licenciements. Nous devons faire le procès de ce système capitaliste qui rejette ceux qu'il a exploités sans retenue, pour les pousser du jour au lendemain vers la misère et donner ainsi aux travailleurs la justification morale de se battre pour sauver leur peau. C'est précisément cette politique que nous défendons auprès des travailleurs de Stellantis Poissy, qui a pris la forme des garanties à imposer pour continuer à faire vivre nos familles après la dernière voiture produite. Car ce qui doit guider notre politique avant tout, c'est que les travailleurs fassent valoir leur droit à l'existence. Tous les travailleurs, les CDI, les intérimaires, ceux des sous-traitants, c'est englober tout le monde dans cette propagande et ce combat. C'est le choix conscient, militant, de rester sur le terrain de classe, c'est-à-dire faire l'état des lieux sans bluffer, mettre à nu la soif insatiable de profit de ces grands groupes capitalistes, la complicité des États et des politiciens. C'est rappeler les dizaines de milliards de profits accumulés depuis des années. C'est rappeler que tous ces patrons nous ont pris notre santé, notre vie à fabriquer leur fortune. C'est dénoncer l'opulence, la richesse, les privilèges de ces maîtres du monde. C'est défendre l'objectif de lutte que nous et nos familles, on refuse de crever, on refuse d'être engloutis avec la fin de l'usine. Et qu'on impose par la lutte les garanties nécessaires pour continuer à faire vivre nos familles après la dernière voiture sortie des chaînes de production. C'est donner comme objectif de prendre sur les profits actuels et si la boîte n'en fait plus, eh bien de prendre sur les profits accumulés depuis des années. Non seulement sur les profits, mais aller même taper les fortunes personnelles de ces grands bourgeois, de ces 500 familles les plus riches du pays, ces grandes familles bourgeoises qui sont bien en chair et en os et qui vivent dans le luxe et l'opulence. C'est dire à ses camarades de travail que la seule chose qui compte, c'est de se battre pour sauver au mieux notre peau et celle de nos familles. Et que nous n'aurons que ce que nous arracherons. Mais nous le ferons ensemble, en restant unis dans la lutte, jusqu'où nos forces nous porteront. C'est marteler qu'ils ne sont pas les seuls dans ce combat, bien au contraire. Mais que nos alliés ne sont pas tous ces politiciens véreux qui viennent verser leurs larmes de crocodile, mais les 300 000 travailleurs dans tout le pays, de tous les secteurs de l'économie qui subissent le même sort, c'est-à-dire de perdre leur salaire. Que nos alliés sont aussi, et je voudrais dire surtout, tous les autres, tous ceux qui triment actuellement des usines, dans des usines qui tournent à fond avant de se faire licencier à leur tour. Et même à l'issue du combat, s'ils n'arrivent pas à empêcher la fermeture de l'usine ou les licenciements, eh bien nous voulons faire en sorte qu'ils gagnent en conscience et en expérience. Et pour l'avoir vécu avec mes camarades de PSA à Aulnay, je peux vous assurer que c'est l'essentiel. Alors certes, le chemin peut être difficile, mais rendre les travailleurs maîtres de leur destin est le seul moyen pour qu'ils puissent sortir renforcés du combat, que leur conscience de classe en soit augmentée, qu'ils soient bien conscients que tant qu'existera cette société d'exploitation pourrie, il n'y aura jamais de paix ni de sécurité pour les travailleurs et les générations futures de travailleurs.
Bon ben voilà, du coup maintenant la parole est à la salle. Ceux qui prendront la parole et qui sont dans les partis politiques, ça serait bien qu'ils l'annoncent. Et puis on y va.
Bonjour camarades, je suis l'ancien salarié de Aulnay, 2014 et fermeture. Je m'appelle Grévis. Et Jean-Pierre Merci est venu à l'annoncer. Il a dit pour les garanties. Les garanties ne vont pas venir comme ça. Je parle pour le camarade de Poissy. La Poissy, j'ai écouté à la télé. Ils ont dit l'arrêt de la production le 28. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent. Franchement. Le patron, il est dur. Patron, il est très, très dur. Lui, il ramasse l'argent, il s'en va. Et nous, on est pauvres. Moi, je connais, moi. J'ai passé pendant 3 mois la grève. J'étais claqué avec les camarades. Il y a des camarades qui sont partis, ils ont décidé. Ils donnent un paradis pour lui. Je pense à eux. C'est dur, la lutte. Lutte, c'est dur. C'est compliqué. Mais être fait, être fort. J'étais couché pendant 3-4 jours. J'ai laissé ma famille à la maison. Ma femme me dit, rentre là-bas. Il y a des camarades dans la usine. Tu fais quoi ici? Je suis parti. J'étais la ponteuse de gravistes, camarades. J'étais la ponteuse. C'est moi qui pontais. Le directeur est venu. Il dit, comment vous touchez l'argent? Je dis, mais vous allez voir. Je vais vous montrer ma paye. Ça va être la même paye que toi que tu me donnes. Que je croyais ici que je suis tranquille. Voilà. On a laissé tous les syndicats. Jean-Pierre, merci, je vous remercie. Et plus les camarades de Julien. C'est eux qui ont été forts avec nous. On était ramenés à la lutte. La usine s'est bloquée. Quand on dit la usine fermée, ça veut dire que c'est à nous. C'est à nous la bagnole. C'est pas les patrons. Parce que nous, on n'est pas là. Les patrons, ils sont pas là. Vous comprenez ce que ça veut dire? Mais là, la POSI, la 28, la position, c'est fini. Il n'y a plus de position. Ils vont casser. Ils vont mettre un stade de France, je ne sais pas quoi, là. Hein? Monsieur Macron, il va partir. Voilà. Là, ils vont venir tous là-bas. Tous les politiciens vont venir avec les caméras. Ils vont dire, ouais, je m'occupe. Ah, rien. Ça va faire comme histoire de Aulnay. Tout le monde, même Monsieur Mélenchon, il va venir là-bas avec son caméra. Ouais, vous inquiétez pas, je vais m'occuper de ça. Personne, il va m'occuper. Alors, il faut bouger les camarades. Je vous dis franchement, il faut bouger. Si vous ne bougez pas, il n'y a pas d'argent. Ils vont proposer quoi? Ils vont proposer 19 000 euros, 10 000 euros, allez, casse-toi. Non, on a fait tout ça notre vie là-bas. Moi, ils m'ont proposé à la POSI. J'ai dit, je suis venu une journée, 2 jours, ils m'ont massacré là-bas. Parce que j'étais gréviste à Aulnay. J'ai appuyé mon dossier, j'ai dit à mon chef, j'ai dit, casse-toi, je me sors moi, je suis parti. Je suis venu à Saint-Ouen, j'ai appris mon chèque, j'ai quitté à Peugeot. Maintenant, j'ai beaucoup de problèmes avec Action. Je suis rentré à Action, ça fait 3 ans. Les salariés, ils sont en train de souffrir. Il y a des actions de travail, ils parlent mal les directions. Eh bien, je suis là-bas, eh bien, pour la lutte. Voilà, camarades.
Oui, alors moi, c'est juste pour raconter un témoignage par rapport à là où je travaille. Donc, je suis au Technocentre Renault. Donc, au Technocentre Renault, on est quelques-uns ici à travailler. Les attaques de la direction sont de plus en plus nombreuses depuis des années. C'est un site d'ingénierie de près de 12 000 personnes, travailleurs. Parmi les attaques, c'est surtout les plans de suppression d'emplois. Oui, en face, ok. Voilà. Ils se succèdent. Et on encourage les collègues qui sont proches de l'âge de la retraite de partir plus tôt avec un salaire payé à 72% pendant 3 ans. Et on ne remplace pas ceux qui partent. Et du coup, la charge de travail augmente sur ceux qui restent. Et on voit beaucoup de nos collègues qui finissent par faire des burn-out. Ce sont les dépressions liées à la surcharge de travail. Et en plus, parmi les autres attaques, la direction, il y a 2 ans, elle a réduit les nombres de congés pour les cadres et elle met des conditions de plus en plus strictes pour partir en vacances en été. Par exemple, voilà, sur les collègues qui travaillent sur des projets soi-disant urgents, on les empêche de partir quand ils veulent. Et on met la pression de plus en plus pour faire travailler les collègues le samedi. Et donc, nous aussi, on a droit au prétexte de la concurrence chinoise. Comme quoi, les travailleurs en Chine, ils travaillent 6 jours sur 7. Et aussi, comme quoi, les constructeurs chinois, eux, ils sortent des nouveaux modèles tous les 2 ans. Donc nous aussi, il faut qu'on fasse vite, vite, vite. Donc la concurrence, voilà, comme l'a dit le camarade, c'est une stratégie pour nous diviser entre travailleurs des différents pays. Et on le vivait déjà, même avec nos collègues qui travaillent dans les centres d'ingénierie qui sont dans d'autres pays, qui sont Renault, mais dans d'autres pays. Par exemple, en Roumanie, en Corée, au Maroc, au Brésil, etc. Mais en réalité, quel que soit le pays où l'on se trouve, on subit l'exploitation et les attaques des patrons. Et la preuve, encore un nouveau plan de Renault, c'est de supprimer 2000 postes dans l'ingénierie monde, cette fois. Et donc là, c'est dans tous les sites de tous les pays qu'il y aura des suppressions. Et notamment en Roumanie, 70% de l'équipe qui travaille sur l'électronique va être supprimée. Donc c'est l'occasion quand même pour nous de se rendre compte, nous les travailleurs de Renault, de l'automobile ou autre, ben, notre sort est lié les uns aux autres, et d'en profiter pour essayer de nous unir par-delà les frontières, pour nous battre contre les capitalistes qui s'enrichissent par notre travail. Portons ces idées et discutons-en autour de nous avec nos collègues.
Bonjour tout le monde, je suis Radia de Stellantis-Poissy. Je travaille avec Jean-Pierre. Nous, on est à Sud Stellantis, CGT historique de l'usine que la fédération de la CGT a détruit, a la cassé. Voilà. Nous, à l'usine de Stellantis-Poissy, ça fait 2 ans qu'on est en train de prévenir les salariés, comme quoi que la direction, elle est en train de nous préparer un coup. Elle est en train de préparer la fermeture de l'usine de Stellantis. Certains salariés, au début, ne nous ont pas cru, mais maintenant, tout le monde nous a cru. Ils nous croient. Mais ce qui nous reste, c'est le terrain, c'est que les salariés ils se révoltent, que les salariés ils se réveillent, qu'ils ne croient pas à les promesses, les fausses promesses des patronats. Parce que les patronats, ils manquent comme ils respirent. Ils vont nous mentir jusqu'à la dernière minute. Nous, à Sud, on ne demande pas une voiture, parce que je suis une ancienne donnée aussi. À Onet, on a demandé une voiture, mais on n'a rien eu. Et on peut compter sur que nous, sur nous-mêmes, nous les salariés. On ne peut pas compter sur quelqu'un d'autre, ni sur les politiciens, ni sur aucune personne. À Onet, je me rappelle, on est parti voir Hollande. Il nous a promis, s'il passera président, et il va pas fermer l'usine. Mais au contraire, directement, il était tout d'accord pour fermer l'usine de Donner. Et parmi nous, il y a des anciens Donner. Ils peuvent vous raconter notre historique. On s'est battu pendant plus que 3 mois. Mais maintenant, on se bat, nous, à Sud Stellantis. Au contraire, à certains syndicats, on se bat à l'intérieur de l'usine et on se bat à l'extérieur de l'usine. Depuis 2 ans, on a commencé de faire des actions parce que on est parti voir tous les sous-traitants qui travaillent pour nous à l'usine. Je vous donne un exemple. Par exemple, Lear, on est le seul client pour eux. Demain, sur le passage, par exemple, notre direction, maintenant, on va passer à une seule équipe. L'usine de Lear, ils vont supprimer, ils vont licencier la moitié de l'équipe. Là, d'ici le mois d'octobre, il ne sera que moitié d'équipe. Les autres salariés, ils vont partir tous à la porte. Nous, depuis 2 ans, on est parti jusqu'à Devrin. On est parti voir les camarades de Devrin pour leur dire il faut se réveiller, il faut se réunir, parce que votre combat, c'est notre combat. Si on ne se lève pas aujourd'hui, les patronats, entre eux, sont unis. Mais il faut que les salariés qui soient unis. Parce que si on croit à les syndicats maison. Les syndicats maison sont toujours avec le patron. Ils vont fermer l'usine avec n'importe quelle façon. On avait le CFTC, on avait IFO, on avait autres syndicats qui ont dit ouais, et on est obligé de signer sur la fermeture pour sauver les autres usines. Ils n'ont pas sauvé. Après, il y avait la fermeture de Saint-Ouen. Il y a maintenant la fermeture de Devrin aussi et la fermeture donnée. Le patron, à partir de la fermeture donnée, le patron, il a compris qu'il ne faut jamais annoncer la fermeture. Les patronats, ils ont des gens qui travaillent avec eux, ils les payent pour que nous, les salariés, on ferme notre gueule. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Maintenant, ils disent on ferme pas Poissy. On va vous ramener des activités annexes, mais que de mensonges, seulement pour diviser les salariés, pour que nous les salariés, on soit pas unis. Nous, le syndicat Sud Stellantis, voici, qu'est-ce qu'on demande? On demande des garanties adaptées de chacun parmi nous. C'est quelqu'un qui va partir à la retraite, on veut des garanties pour lui. Quelqu'un qui veut un plan senior plus long et aussi mieux payé. Parce que, par exemple, notre direction maintenant, on a un plan de 2 ans qui n'est pas du tout intéressant, qu'on perd sur notre salaire entre 600 jusqu'à 900 euros, c'est un plan à 70%. Et la direction a cru qu'en faisant ce plan-là, elle va mettre beaucoup de monde à la porte. Mais les gens ne veulent pas partir. Aussi, on veut des garanties pour les jeunes qui veulent encore travailler. Soit ils veulent travailler avec Stellantis dans des autres usines, ou bien avec, à l'extérieur, mais avec des garanties aussi. Aussi, les gens qui ne veulent pas rester avec Stellantis, qui veulent partir, ils veulent un chèque avec un congé de reclassement plus long, plus intéressant, pour chercher du travail, faire des formations. C'est ça ce qu'on veut maintenant. Et aussi, on dit non à la fermeture, parce qu'on ne veut pas que les usines ferment en France. Parce que si toutes les usines en ferment, parce qu'il y a la technologie qui remplace les êtres humains. Et nous, on est contre ça. Si vous avez remarqué, c'est partout. C'est maintenant dans les centres commerciaux, ils mettent des caisses à la place des caissières. Par exemple, nous, à notre place, nous qu'on travaille dans les usines, et ils robotisent, ils mettent des robots à notre place. C'est ça qu'on dit, on est contre ça. On veut du travail et du travail pour tout le monde. Pour répondre à le camarade, l'ancien camarade de Donné, oui camarade, on est en train de travailler sur le terrain. Ça fait 2 ans, on a fait tous les marchés. On était voir Valérie Pécresse, on était voir le maire Donné, on a mis tous les gens de Poissy au courant de notre affaire. On est en train de se battre à l'extérieur et à l'intérieur. Par contre, il y a des syndicats maintenant qui, avant qu'ils étaient des syndicats qui défendent la cause ouvrière, maintenant sont 100% avec les patrons et ils ne croient pas à la révolte des salariés à l'intérieur et ils veulent faire que des actions à l'extérieur. Et ça ne va jamais marcher parce que le patronat, même si on met des tentes, on bloque l'extérieur, s'il n'y a que nous les délégués, on ramène des autres personnes qui nous soutiennent à l'extérieur. Par exemple, je vous donne un exemple, la CGT, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ramène les cheminots, elle ramène tout ça. C'est bien de nous soutenir, mais il faut que les salariés qui se réveillent, que les salariés qui bloquent la production, c'est le patron. Parce que le patron, quand tu fais des choses à l'extérieur, il n'aime pas la publicité. Bien sûr, il n'aime pas la publicité. Mais ce qui le touche, quand tu le touches dans sa poche, quand tu bloques la production, ce qui nous reste maintenant, il ne reste qu'un an de production. C'est sûr et certain, mais le patron ne veut pas le dire. C'est pour cela que les salariés, il faut qu'ils se réveillent. Et merci.
D'autres interventions aussi revigorantes là?
Justement, juste comme il y a des grèves partout, est-ce que c'est pas possible, je précise, de coordonner le mouvement aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale, s'il vous plaît?
Oui, malheureusement, il n'y a pas de grève partout, il y a des attaques partout, ça discute beaucoup. Dans les discussions individuelles, moi je trouve que les attaques menées dans le cadre... dans la branche automobile en ce moment particulièrement, même si Jean-Pierre a rappelé que c'était une offensive générale, mais dans le cadre de l'automobile, ça met en lumière en fait le fonctionnement du système capitaliste. Quand on a des discussions avec nos copains dans les ateliers, souvent le raisonnement d'une grande partie de nos copains d'atelier consiste à trouver naturelle la concurrence, c'est normal, c'est comme ça. Faire du profit, ben ça fait partie du jeu. Tout ça, c'est des choses qui sont un peu en filigrane, en arrière-plan dans les têtes. Mais quand, en tout cas, les discussions nous permettent d'aller assez loin pour dire bon, ben écoutez, si on en est là, c'est quoi l'issue pour nous? Si on veut relocaliser des usines ici, parce que c'est souvent ça qui revient. Eh bien, ça impliquera quoi dans le cadre du système capitaliste? Eh bien, ça voudra dire qu'il faut qu'on accepte de travailler pour 2, 3 ou 400 ou 500 euros par mois. Est-ce que c'est ça l'avenir? Et quand bien même ce serait ça, il faudrait être encore plus productif parce qu'on sera toujours en concurrence les uns avec les autres, etc. Donc ça nous permet au niveau individuel d'avoir des discussions sur le fonctionnement du capitalisme et que c'est une voie sans issue pour nous les travailleurs. Donc ça permet quand même, moi je trouve que, voilà, dans les discussions individuelles. Après, du coup, sur le plan politique, ben, ça nous permet de mettre en avant des perspectives autres que les pièges et les saloperies mis en avant par les politiciens ou même les syndicats, qui consistent finalement à nous faire raisonner et à nous faire rester dans le cadre du système capitaliste. Et c'est pour ça que c'est important que, bah, on mette en avant non seulement l'idée qu'il va falloir lutter pied à pied, mais en plus qu'on a une autre perspective. En tout cas, que les travailleurs sachent qu'il y a des militants qui défendent d'autres perspectives. Et ces perspectives-là, ce n'est pas des voies sans issue. C'est sûr que c'est dur d'imaginer une révolution, d'imaginer une prise du pouvoir, d'imaginer exproprier les patrons, tout ça c'est dur. Mais en même temps, dans des situations de lutte, dans des explosions de colère, eh bien tout devient possible. Et en tout cas, nous on a cette perspective-là, on la défend, il faut la maintenir. Et c'est ça qui va compter pour l'avenir. Tout le reste, c'est l'impasse.
Merci. Bonjour, moi je suis militant à Révolution Permanente. Je voulais remercier d'abord Jean-Pierre Mercier pour le topo qui était vraiment très bien et je trouve aussi la discussion intéressante. Moi j'avais une question, donc c'est vrai qu'on est en train de voir que, comme disait Jean-Pierre, les plans de licenciement se multiplient à une échelle grand V. Il y a le secteur automobile qui continue à être saigné, etc. Mais plus globalement, en vrai, il y a une offensive généralisée du patronat qui cherche à faire payer la crise aux travailleurs. Et c'est vrai que du coup, on a vu même le chiffre là des 8% de chômage. On voit qu'il y a une montée plus globale du chômage et de l'offensive contre la classe ouvrière. Et du coup, voilà, on voit, c'est vrai que pour l'instant, la réponse du mouvement ouvrier, il y a une forme d'atonie, de passivité qui reste là et qui est compris l'expression en définitive de la défaite de la bataille des retraites. Mais du coup, la question, oui, c'est que le rôle des directions syndicales, aujourd'hui, il joue un rôle clé, je pense, dans cette passivité. Typiquement, même la question des revendications qui sont posées par les directions syndicales, typiquement même sur la question de l'interdiction des licenciements que posait Jean-Pierre. Voilà, par exemple, Sophie Binet, elle, ce qu'elle propose, c'est un moratoire sur les licenciements. C'est voilà, des formules vagues et vides. Et évidemment, l'absence de plan de bataille national pour répondre à cette crise sociale qu'on est en train de vivre. Et du coup, voilà, pour moi en tout cas, on ne doit absolument pas bégayer sur les revendications. La question de l'interdiction des licenciements, c'est une question vitale pour le mouvement ouvrier, une question d'urgence qui, on va dire, remet en question, y compris, en partie, la propriété privée du capital, dans le sens de refuser qu'on nous licencie. Donc la question que je voulais poser là, c'est dans ce cadre où en vrai il y a une offensive importante sur la question du chômage, moi j'ai un doute, en tout cas une nuance sur la question du mot d'ordre, sur la question des garanties et du poids qu'on donne à cette revendication, même si évidemment on n'est pas opposé à la question d'avoir de meilleures indemnités, etc. etc. Et le poids qu'on donne et qu'on devrait donner, moi je pense à la question du maintien de l'emploi, du non à la fermeture d'usine comme le disait la camarade juste avant, et que pour moi c'est une question, y compris stratégique pour le mouvement ouvrier, de refuser cette offensive patronale, le partage du temps de travail et d'imposer, on va dire, cette question-là, parce que voilà, les attaques, elles continuent, le chômage avance et la pression augmente. En tout cas, voilà, moi, j'avais en tout cas cette question du maintien de l'emploi. Pour moi, elle est vitale et je pense qu'il faudrait peut-être, en tout cas, donner plus de poids à cette question. Merci beaucoup.
On prend une question avant les réponses.
Camarade, et puis après il y avait Farid et Ken.
Je me permets de dire le mot. Je travaille chez Moserson. Avant c'était Redel. Donc je travaille pour Stellantis, Renault, Volvo Truck, DAF et tous les autres. Et là dernièrement, on a un PSE qui s'est invité comme ça du jour au lendemain. Mais pour l'instant, faut qu'on soit tranquille. On soit tranquille parce que c'est que le MOI qui est touché. Donc la main-d'œuvre indirecte. Donc sur les 15 sites que Moserson possède en France, parce que Moserson c'est quand même une entreprise indienne qui a plus de 47 usines à travers le monde qui touchent principalement l'automobile, mais aussi l'aérospatiale depuis peu. Après le médical, le paramédical, il met ses billes partout, quoi. Les Segal met leurs billes partout. Et là, le plan, donc, pour l'instant, c'est 70 personnes sur 4 sites. Donc, Goncourt, où je travaille. Arnes, c'est le centre technique. Après, il y a Rochegoutte, qui travaille aussi pour Stellantis. Et après, il y a Plessis-Robinson. Là, c'est une petite structure qui est amenée à fermer dans pas longtemps, puisque là-bas, ils en ont 5. En tout, il y en a 70. Nous, sur Goncourt, on en a 12. La plupart de ceux qui vont partir, ben, c'est la secrétaire, la DRH. Il y a un peu de tout, quoi. Des techniciens, beaucoup de techniciens, alors qu'on en manque cruellement. Mais ils ont ouvert des postes. Hein. Il y a une centaine de postes dans la France qui sont ouverts. Donc là, pour l'instant, ils leur disent que s'ils veulent postuler ailleurs, donc comme à... En Auvergne, après sur Pau, sur Liévin, puisque dans l'aérospatiale, ils ont racheté celle de Liévin. Et la dernière fois que j'ai discuté avec Omayoun, notre directeur intérimaire, là, pour l'instant, parce que lui aussi est sur la sellette, bah, je lui ai demandé comment ça va aller, parce que nous, on travaille principalement pour Stellantis au niveau de la case 0. Donc la case 0, c'est Ordin. Et quand on lui a posé le problème de Poissy, parce qu'il a dit, bah, tant qu'Ordin, il est ouvert, pour nous, ça va. La case 0, elle restera chez nous. Mais si Stellantis a l'intention de fermer Ordin, c'est sûr que ce sera plus intéressant de la faire fabriquer à l'étranger, puisque le transport, il va coûter trop cher. Voilà. Donc c'est que de la fumée.
Oui, rapidement, je m'appelle Ken, je suis électromécanicien à Stellantis Poissy et je suis aussi militant au NPA révolutionnaire et je suis aussi sur Stellantis comme Radia et d'autres. Non, je voulais juste répondre à des choses qui ont été dites, c'est que par rapport au mot d'ordre de l'interdiction des licenciements, moi je pense que là dans la salle, il n'y a personne qui pense qu'il y a un mot d'ordre magique. Et l'interdiction des licenciements pour entraîner les travailleurs massivement, c'est pas non plus un mot d'ordre magique. Je pense, comme tu as dit, camarade, c'est essentiel de le mettre en avant parce que ça permet en fait de critiquer le capitalisme, de dire des choses profondes sur le fonctionnement du système. Mais le problème majeur qu'on a, c'est d'être fort. Et pour être fort, il faut entraîner un maximum de travailleurs. Et il y a les travailleurs autour de nous, dans l'usine. Leur problème, c'est pas l'enversement du capitalisme pour l'instant. Je souhaite qu'un jour ce sera ça, mais c'est pas le cas actuellement. Là, leur problème, c'est qu'ils sont tout cassés, ils ont 55 ans, 58 ans, 60 ans, on les fait même travailler peut-être jusqu'à 64 ans. Ils n'en peuvent plus, ils veulent vraiment quitter l'usine. Donc ceux-là, certains, ils sont prêts à lutter et aller très loin, en fait. Mais pas sur des mots d'ordre, on va dire, un peu compliqués et un peu lointains, comme l'interdiction des licenciements. Par contre, si c'est pour discuter d'une pré-retraite à 5 ans, payée à 80% ou 85%, là, ils sont capables de s'en former comme des lions, quoi. Voilà. Et donc, ce que je veux dire, c'est que il faut absolument qu'on arrive à entraîner un maximum de travailleurs dans notre usine et ailleurs. Et pour ça, il faut parler du système capitaliste et comment l'abattre, etc., sur les problèmes de fond. Mais il faut aussi qu'on arrive à entraîner les travailleurs sur leurs revendications, que eux ont imaginées, qui correspondent à leur situation. Après, ça peut commencer sur des choses un peu modestes. Et après, ça peut devenir beaucoup plus compliqué, beaucoup plus fort comme revendication et beaucoup plus critique par rapport au système économique et politique et social. Et dernière chose que je voulais dire, c'est par rapport à... Pour entraîner les travailleurs, il y a aussi une autre manière. C'est plus, en fait, c'est le phénomène de la boule de neige. Plus on est fort, plus en fait les travailleurs ils voient qu'il y a un coup à jouer et qu'il faut rentrer dans la lutte. Et une des manières d'être fort, en fait, c'est essayer de se coordonner avec d'autres travailleurs qui ont des problèmes, les mêmes problèmes que nous, dans d'autres entreprises en France. Et ça, la CGT, elle le veut absolument pas. Je rappelle juste qu'il y a 3 ans, on s'est fait exclure. On était 250 syndiqués à la CGT PSA Poissy. On s'est fait virer la CGT. parce que la CGT, elle savait très bien qu'elle allait avoir une vague de licenciements. Elle ne voulait pas avoir des trublions qui proposent la lutte de classe. Ce qu'elle voulait, c'était en fait des bureaucrates tout gentils qui cherchent la collaboration avec le patron. Voilà, donc la CGT, le PCF et le LFI, eux, tout ça, c'est des impasses. Une des manières d'être fort, c'est de se coordonner avec d'autres travailleurs. Et pour ça, il faut absolument être vu. C'est-à-dire que il faut qu'on mène nous les ouvriers, il faut qu'on mène la bataille dans notre usine, mais il faut aussi qu'on la mène à l'extérieur pour être visible, pour qu'il y ait les salariés, je sais pas, à l'autre bout de la France, même en région parisienne, ils comprennent qu'il faut absolument s'allier à nous, faut nouer des liens. Et quand on sera un peu peut-être mieux coordonné aussi à l'extérieur, les ouvriers de l'intérieur, ils verront, ça vaut le coup. On n'est pas tout seul à Stellantis Poissy. Il y a peut-être des salariés d'autres sous-traitants, de l'automobile ou pas, de la chimie, d'autres secteurs. Eux aussi, ils peuvent se battre et ça donnera envie, en fait, aussi aux ouvriers de Poissy de s'y mettre.
Ouais. Et du coup, là, moi, je voulais mettre l'accent sur le fait, bah, comme l'ont dit pas mal de camarades, il n'y a pas de sauveur suprême. Et que tous ceux qui voudront parler à notre place, à nous les travailleurs, eh ben c'est des gens qui nous mettront dans des impasses. Alors on a cité hein, les syndicats, les politiciens voyous, mais de toute façon ce sont tous les mêmes. Il y en a pas un qui va s'occuper du sort des travailleurs, c'est pas vrai. Alors, on a parlé beaucoup de critiquer aussi Mélenchon, parce que, bon, voilà. Mais là, moi, il n'y a pas longtemps, il y a eu un tract qui a été distribué devant l'usine Stellantis d'Ordain. Je vous lis une ou deux phrases. Voilà. Tac, tac. Et vous avez appris comme nous, donc ça commence comme ça, la nouvelle du 16 avril, Stellantis va mettre fin à l'assemblage de voitures à Poissy d'ici fin 2028. Derrière les mots froids de la direction sur capacité industrielle, réorganisation, transition, ce sont des centaines de familles supplémentaires dont la vie bascule. Et derrière cette annonce, une question que vous êtes nombreux à vous poser en ce moment, et nous, à Ordain-Valenciennes, sommes-nous les prochains ? Cette inquiétude est légitime, logique, invoquée par Stellantis pour fermer Poissy, et la même qui pourrait demain menacer vos sites. Plus loin, il dit « Je saisis le ministre de l'Industrie pour lui demander une rencontre d'urgence, en votre nom et en présence de vos syndicats. Et je saisis de nouveau la direction de Stellantis » afin de nous recevoir avec des réponses claires sur la pérennité de nos sites et de nos emplois, les investissements prévus pour votre avenir industriel et les perspectives de production à court terme et moyen terme. Et plus loin, notre territoire a déjà trop payé, usine Ordenin, Etex Eternit à Olchin, ArcelorMittal, Valdune et Atrisse-en-Léger. Autant de drames industriels que nous portons encore. Il n'est pas question qu'Ordain et Valenciennes s'ajoutent à cette liste. Voilà, nanana, vous méritez des réponses, nanana. Ce tract, il est de qui ? Ruffin ? Mélenchon ? La CGT ? Ben non, c'est le tract d'un député qui s'appelle Sébastien Chenu. Et qui est député Rassemblement National dans le Nord. Bon, ben voilà. Voilà, ça fait rire, mais ce sont tous les mêmes. Les travailleurs ont leur sort en main et à eux de le défendre. Il n'y a pas de sauveur suprême si nous, les travailleurs, on met notre sort en main dans ces mains-là, et ben on est sûr d'aller dans le mur. Voilà.
Bon, ben, j'ai pas le choix, on m'a dit de faire court. De toute façon, je vais pas me répéter parce qu'il y a plusieurs camarades de Stellantis Poissy qui ont pris la parole. Juste pour dire qu'effectivement, nous, on a fait... ce qui a été dit dans l'introduction, effectivement, il y a une attaque sans précédent contre les travailleurs dans le pays. Bon, nous, ça fait longtemps qu'on a fait abstraction des politiciens qui ont été cités ici, bon, sans les reciter, et effectivement, des organisations syndicales qui font une politique d'accompagnement. Bon, je ne vais pas reciter la CGT et tout ça, mais voilà, quand on parle de projets industriels et tout ça, bon, voilà, nous, on est, moi, je suis militant à l'usine Stellantis Poissy. Nous, on est en opposition totale avec cette politique. On est convaincus qu'on peut compter que sur nous-mêmes, les travailleurs. Et là-dessus, c'est que comme ça qu'on pourra y arriver. Nous, effectivement, l'usine, elle va fermer, mais ça dit pas son nom, quoi. Ils disent toujours qu'il va y avoir du boulot pendant 30 ans. Bon, nous, ce qu'on a gagné dans l'usine, c'est quand même au niveau de la conscience. Tout le monde est conscient, ou majoritairement les salariés sont conscients que ça va fermer. Après, effectivement, partir sur une grève, on n'en est pas encore là. Bon, on milite au quotidien. Voilà, bon, il y a eu des petits débrayages et tout ça, mais on a gagné le fait que, bon, les salariés, ils savent qu'il faut qu'on se mobilise. La question, elle est quand? Maintenant, il n'y a pas de recette magique. Voilà, on n'a pas une recette pour décréter la grève. Mais en tout cas, on milite au quotidien pour que ça se fasse. Et ça, on est convaincu qu'on peut compter que sur nous-mêmes, quoi. Seuls avec les travailleurs, comme nous, on a fait abstraction de toutes les organisations syndicales, des bureaucrates syndicaux. Nous, on sait que, voilà, c'est que contre nous qu'on pourra. Et d'ailleurs, l'année dernière, on avait fait un débrayage, on avait retiré nos gilets, quoi. Il n'était plus question d'organisation syndicale, mais de travailleurs. Et c'est que comme ça qu'on pourra y arriver. Voilà, on est convaincu de ça et ça viendra, quoi. Et je voulais vous dire également, effectivement, donc il y a l'intérieur, mais je ne vais pas revenir, mais effectivement, on s'est adressé aux salariés des alentours, parce qu'on sait très bien que tout seul, on ne pourra pas gagner. Ce qui est primordial, c'est à l'intérieur de l'usine. Ça, on est tous conscients. Mais également, dans le pays, il y a des salariés qui souffrent comme nous, et c'est qu'en faisant cause commune qu'on pourra y arriver. Voilà les camarades.
Alors juste, je voudrais pour conclure répondre aux camarades de Révolution Permanente qui met en avant le mot d'ordre de maintien de l'emploi. Maintien de l'emploi qui correspond pour lui interdiction des licenciements. Bon, qu'il critique Sophie Binet, que Sophie Binet, c'est pas l'interdiction des licenciements, mais le moratoire des licenciements. C'est, bah oui, la CGT, Sophie Binet, c'est pas eux qui vont nous défendre. C'est pas eux qui vont défendre les travailleurs. Ils sont du côté du patronat. Se plaindre des mots d'ordre de la CGT, c'est se payer de mots, c'est faire croire que, d'une certaine manière, ils pourraient avancer des mots d'ordre, ils pourraient avancer une politique, défendre une politique pour que les travailleurs, ils se défendent. C'est mort, les copains. Depuis 1914, c'est mort. Donc, laissons ça de côté et occupions de nos affaires. Deuxièmement, et là, c'est la vraie différence. C'est la vraie frontière. Le maintien de l'emploi. Le maintien de l'emploi, comment tu le fais, le maintien de l'emploi dans l'usine de Poissy et dans tous les sous-traitants qui sont en train de se faire massacrer quand Poissy va arrêter la voiture? Tu le fais comment, le maintien de l'emploi? Eh ben, en refaisant un nouveau modèle. C'est-à-dire que tu te remets à militer. Et moi, sincèrement, les copains, je pensais que cette question, elle allait venir d'un militant cégétiste, honnête, sincère, tranquille. Non, ça vient de chez vous. Ben, ça veut dire, c'est se remettre sur le terrain de la CGT. Ça veut dire se remettre sur le terrain du Parti communiste et puis de LSI. Oui, pour maintenir l'emploi, il faut un véhicule électrique ou hybride ou thermique, peu importe, monsieur le patron. Mais faites-nous bosser. Vous savez, nous, on sait se faire exploiter, on fait de la qualité, etc., etc. Le maintien de l'emploi, c'est bidon. Le maintien de l'emploi, c'est aller sur le terrain du patronat. C'est aller sur le terrain du projet industriel. Et le patron, il en a rien à faire du projet industriel. Lui, il sait ce qui est bon pour lui, parce qu'il a une vision au niveau mondial. Et pour lui, il doit fermer Poissy pour que Pomigliano, en Italie, fasse ce petit véhicule, ce fameux projet industriel pour maintenir l'emploi, etc. Il ne maintiendra même pas l'emploi en Italie, il va le supprimer en plus. Non, ce qu'il faut, les copains, c'est qu'il faut qu'on raisonne en tant que travailleur. Et en tant que travailleur, ça veut dire qu'il faut qu'on défende notre peau. Il faut qu'on défende notre droit à l'existence. Il ne faut pas qu'on crève avec cette usine. Alors cette usine, elle crèvera sûrement. Parce que aujourd'hui, et je parle aujourd'hui, me dites pas que je suis défaitiste, aujourd'hui, on la sent pas la mobilisation générale. On la sent pas le nouveau mai 68. Parce qu'il y aurait un nouveau mai 68, oui, les garanties, elles exploseraient. On les ferait ravaler leur gorge et on prendrait la tête des usines. Hélas, alors là, ouais, là, c'est un sacré projet industriel, les copains. C'est reprendre la société en main et les foutre dehors.
Là,